encore des drones mystères en Europe, encore des raffineries qui brûlent. Et un discours presque goguenard de Vladimir Poutine au forum Valdaï expliquant que l'Europe n'a rien à craindre, mais qu'il surveille sa remilitarisation. Et d'ailleurs, ciblant plutôt l'Europe que les USA comme ennemi et cherchant visiblement à tirer encore les ficelles qui semblaient jusqu'ici lui attirer les faveurs de Trump. Pas sûr cependant que le président américain soit encore assez naïf pour que cela ait un effet. Alors, la confrontation est-elle inévitable et dans quelle mesure sommes-nous condamnés au scénario du cauchemar ? Bonsoir, je suis Philippe Fabry. Ah, et je suis figé, effectivement. J'ai un petit problème de caméra, je m'en excuse. Vous allez me voir dans un instant, normalement, si ma caméra veut bien se réactiver. J'ai fait beaucoup de manips pour préparer cette émission pour que vous puissiez tout voir. Ça va m'agacer. Fort heureusement, j'ai plein de choses. Alors le son est bas aussi, décidément. Alors le son, je vais vous le monter. Voilà. Là, je pense que vous devez m'entendre mieux, n'est-ce pas ? Ma caméra, je vais être obligé. Elle ne veut pas s'allumer. Alors. Lol. C'est là que vous voyez, je suis persuadé que c'est Léo qui me trolle pour montrer qu'il est capable, qu'il devrait être là lui-même. Alors attendez, on va la remettre la caméra de zéro et puis ça sera plus simple. Voilà, je pense que j'ai dû apparaître à l'écran désormais. Je vais couper ce retour audio extrêmement désagréable que j'ai. Et on est bon. Donc, ce soir, je vérifie sur mon retour que vous voyez bien tout, parce que c'est coton. Vous voulez que je monte encore un peu le son ? Non, la vache. Parce que j'ai eu du mal à enregistrer le bulletin l'autre jour, donc c'est pour ça que ça n'allait pas. Alors, est-ce que je suis bon là ? Je regarde mon retour cette fois-ci. Oui, ça y est. Bon. Excusez-moi, mais bon, ça demande encore un petit peu de rodage, notamment. En fait, j'ai passé l'heure qui vient de passer à mettre plein d'images. Un certain nombre d'images qui seront utiles pour l'émission de ce soir en banque, et c'est pas impossible que j'ai touché un truc ou simplement que ma caméra soit capricieuse parce qu'il y a un port USB qui est un peu fatigué. Mais bon, c'est pas grave. Donc ce soir, l'idée c'est de faire la suite de l'émission de la semaine dernière, à laquelle je renvoie pour la question de savoir mais pourquoi est-ce que une confrontation directe entre l'OTAN et la Russie commencerait maintenant. Là, je vais pas revenir dans le détail. Et ce que je voudrais aborder avec vous, c'est faire un petit peu de réfléchir un petit peu pour savoir du coup qu'est-ce qui va se passer. Parce que le temps passant, malgré tout, on s'approche du déroulé des événements. Et donc forcément, on sort un petit peu de la noirceur, de l'obscurité, puisque plus on est loin du futur, plus c'est difficile de le prévoir. Et vous vous souviendrez peut-être, alors je n'ai pas remis ça en image, mais vous vous souviendrez peut-être ce que je vous avais expliqué sur le jeu du fakir, vous savez, cette planche avec des clous, où vous faites tomber une bille dessus, et vous essayez de prévoir où est-ce qu'elle va tomber. Bah, vous savez, c'est un jeu parce que vous pouvez gagner des points. Bon. Et forcément, plus la bille est avancée dans sa course, plus vous pouvez prévoir précisément ou savoir à peu près vers où elle va tomber, même s'il y a toujours un hasard qui est possible qu'elle rebondisse d'un côté ou de l'autre. Mais voilà, ça vous éclaire. Vous voyez, si la trajectoire va de ce côté, vous savez qu'en gros, ça tombera là. Si la trajectoire elle est au milieu, vous savez que ça tombera là, etc. Donc forcément, quand on se rapproche des événements, on en a une vision plus claire. Je crois que je vous avais expliqué ça à propos de la Révolution française, de la nouvelle Révolution française. C'est pareil pour la guerre, naturellement. Et donc la raison pour laquelle je reviens là-dessus, c'est que mon but, vous savez, en faisant de l'historonomie, c'est d'essayer d'avoir un outil, pas qui permet absolument de prévoir l'avenir, c'est pas ça l'idée, mais au moins un outil qui soit plus efficace ou qui amène de nouveaux moyens de prévoir un certain nombre de choses et donc de prévoir mieux. L'idée, c'est de prévoir mieux que les autres. J'avais publié l'Atlas des guerres à venir en 2017 pour essayer d'expliquer la façon dont les choses, je pensais, se penseraient. Je pensais se passerait. Je suis fatigué ce soir. Mais naturellement, le but de toutes ces émissions que je fais avec vous, c'est pas de rester sur ce que j'avais dit en 2017 et de dire voilà à quel point j'avais raison ou d'essayer de forcer les choses. Pas du tout. C'est au fur et à mesure aussi d'essayer d'être de plus en plus précis, de voir en quoi on suit les choses et dans quoi on ne les suit pas. L'intérêt, en revanche, de qu'est-ce qu'il y a, il y a de la musique. Pourquoi vous entendez de la musique? C'est pas normal que vous entendiez de la musique. Vous entendez de la musique? Pourquoi il y a de la musique? La vache, excusez-moi, je ne lisais pas ça, mais je ne sais pas pourquoi il y a de la musique. Alors, j'ai fermé des onglets YouTube qui tournaient derrière. Ça avait dû changer de... Ah oui, j'avais un onglet qui avait basculé. C'était mon onglet du retour, là, de l'émission d'habitude que j'ai avec Léo. Et là, ça avait basculé dans la liste. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a foutu une playlist Game of Thrones. Mais je ne comprends pas pourquoi vous l'entendez, en revanche. C'est un mystère électronique pour moi, parce que ça n'a rien à voir avec OBS. C'est pas par rapport à le streaming, donc je ne sais pas. Bref. C'est chaud ce soir, c'est pas grave. Donc ce que je disais, honnêtement, je n'ai absolument aucune idée de comment vous avez pu, comment ça a pu, je sais pas. Électroniquement, je sais pas. Donc l'idée de l'historonomie, ça permet pas notamment de savoir. Ce qui va se passer, par exemple, au hasard des batailles, les hasards militaires, etc. Par exemple, l'historonomie, en tout cas, au point où elle est développée, je n'ai pas pu anticiper le fait que la contre-performance russe, par exemple, en Ukraine en 2022. Ça, j'ai pas pu. Donc, forcément, ça a été une surprise. En revanche, ce que j'ai pu anticiper, c'est le fait que Poutine allait tenter le coup. Et si l'historonomie nous donne des outils, c'est surtout comme ça, des outils de psychologie collective en ce qui concerne les différents acteurs, et ça permet de resserrer le champ des possibles, en sachant que, a priori, les gens vont tenter quelque chose dans ce sens-là, ou qu'ils ont une solidité dans l'adversité, une motivation qui est telle que ils avanceront un certain nombre d'étapes et qu'ils tomberont pas, qu'ils renonceront pas avant d'avoir tenté un certain nombre de choses, etc. Donc ça donne, si vous voulez, un cap à l'histoire. Donc ça permet d'écarter toutes les autres directions dans lesquelles ça pourrait partir. Déjà en soi, pour ça, c'est un outil qui est précieux, parce que si vous pouvez écarter 50% de toutes les possibilités déjà, ça vous donne quelque chose qui permet de resserrer le champ des prédictions, donc a priori ça affûte ce que vous êtes capable de dire. Mais d'une certaine manière, l'historonomie aussi, par la multiplicité des exemples qu'on connaît, ça doit pouvoir permettre de donner d'une certaine manière la direction dont les choses doivent se passer, sans forcément qu'on soit véritablement capable de décrire le phénomène, de décrire le pourquoi ça ferait ça, mais en disant que voilà, en général, on observe que, voilà, c'est une autre des choses qui est utile. Donc en général, par exemple, on observe que à tel stade, normalement, l'impérialiste revanchard est particulièrement efficace contre ses adversaires. Voilà. Même si, par exemple, comme l'Allemagne d'Hitler en 1940 en France, l'équipement militaire est inférieur à celui de l'adversaire, puisque la France était plus armée, par exemple, elle avait des meilleurs chars, notamment, que l'Allemagne, elle avait plus d'avions. Avec l'Angleterre, si vous cumuliez, c'était très clair. Sur le papier, l'Allemagne ne pouvait pas gagner. Pourtant, elle a remporté une victoire éclatante en 2 mois, parce que la façon dont il utilisait son matériel était tout à fait différente. Alors, l'historonomie, ça permet d'une certaine manière d'anticiper ça, avec l'idée qu'un impérialiste revanchard, généralement, fait un usage inattendu de son matériel qui, même s'il est de qualité inférieure ou en quantité inférieure, peut lui permettre, au moins ponctuellement au début, le temps que ses adversaires apprennent à faire la même chose, de remporter des succès surprenants. Voilà, c'est toujours ça l'idée, que ce soit avec la Blitzkrieg, encore une fois, allemande en 1940, ou avec les combinaisons aéronavales japonaises qui étaient assez innovantes dans la façon dont ils ont opéré et qui leur ont permis de conquérir l'essentiel de l'Asie du Sud-Est en 6 mois après Pearl Harbor pendant le premier semestre 1942. Donc voilà. Donc voilà les choses dans lesquelles, le sens dans lequel on peut aller. Et donc, en prenant compte de tout ça, vous savez, j'ai pensé que c'était l'occasion de faire un point désormais, puisqu'on semble aller vers cette confrontation. Encore une fois, je pense qu'il peut y avoir des délais à nouveau, mais je pense que il va se passer les choses en 2026. Je pense que Donald Trump ne va pas revenir sur la nouvelle disposition d'esprit qui est la sienne. Pour ça, il faudrait que Vladimir Poutine, par exemple, tout d'un coup, lui, décide d'accepter ce qu'il a jusque-là été inacceptable, c'est-à-dire, par exemple, les conditions de cessez-le-feu de Trump, etc. Donc ça, je pense que ça n'arrivera pas. Ça, c'est l'historionomie qui nous dicte un peu dans quel sens sont censés aller les personnages, surtout Poutine. Donc voilà, ça c'est la base des choses. Alors, je vais faire quand même un petit rappel. Dans les anciennes projections que j'avais faites pour la guerre, pour savoir, parce que la question c'est un petit peu de savoir l'ampleur des dégâts. J'ai intitulé cette émission Le scénario du cauchemar, c'est-à-dire de réfléchir. Vous savez qu'il y a des scénarios plus ou moins amples, que les scénarios, par exemple, comme ce qui s'est passé, l'impérialisme revanchard de Napoléon ou d'Hitler, si on projette ça au niveau de la Russie, on est quand même dans une tranche assez haute de l'explosivité, on va dire, de l'impérialisme revanchard. Il y en a qui ont eu des résultats moins spectaculaires. Je pense à un impérialisme revanchard que j'évoquais dans l'Atlas des guerres à venir, qui était celui de Persée de Macédoine. Dans la Grèce antique, hein, qui au niveau du rapport géostratégique global, on va dire, était peut-être le plus proche de Vladimir Poutine, à cause de l'influence qu'il pouvait avoir sur toute la Grèce qui elle-même est le parallèle avec l'Europe, alors que Rome a un bon parallèle avec les États-Unis. Donc, sur le parallèle global, c'est plus net. Et il faut bien dire que il y a eu une petite victoire au début tactique à Kalinikos de Persée de Macédoine sur les Romains, ce qui a fait durer la guerre derrière parce que les Romains ont dû se réorganiser, etc. Mais qui n'a pas été exploité par Persée de Macédoine pour faire des conquêtes absolument spectaculaires, comme ça a pu être le cas pour Hitler ou pour Napoléon, par exemple. Donc ça, c'était un peu le spectre sur lequel je me basais. Et une autre projection, un outil de projection que j'essaie d'utiliser, que j'avais réutilisé dans l'émission qui s'intitulait Les rails de l'histoire, que j'avais fait en novembre 2023, et où j'avais repris tout un tas de cas d'impérialistes revanchards pour essayer de voir ce que ça donnerait à propos de la Russie. Oui, parce que j'ai commencé par vous réafficher ce qui était mon ancienne l'ancienne projection que j'avais faite de ça. Alors, attendez, il faut que je recule ça, parce que sinon vous ne le verrez pas. Voilà, on va le mettre là. Voilà, donc ça, c'était l'ancienne projection que j'avais mise dans l'Atlas des guerres à venir. C'est-à-dire que ce que je constatais, c'est que l'impérialiste revanchard, vous le souvenez, il intervient dans un contexte de révolution nationale. La révolution nationale, lorsqu'elle commence, en général, vous avez une perte de territoire. Hein, que ce soit l'Allemagne en 1918, hein, qui perd le couloir de Danzig, l'Alsace-Lorraine, etc. Ou que ce soit, comment dire, que ce soit l'URSS, hein, puisque l'URSS a perdu une bonne partie de son territoire, puisque ça s'est limité à la Fédération de Russie, mais il y a tout un tas de pays qui n'en font toujours pas partie. Il y a une perte de territoire au début de la Révolution nationale. En général, hein, c'est pas le cas de la France en 1789, mais enfin, il y avait eu d'autres problèmes avant. Et ensuite, donc, l'impérialisme revanchard, ça consiste à essayer de reprendre ce qui a été perdu. Parfois, il est amené à aller aussi un petit peu plus loin. Et donc, avec, et c'était ça la série de cas que j'avais fait et que je vous avais montré dans l'émission Les Rails de l'Histoire. Je vous ai pas remis l'image ce soir, mais je vous ai remis que celle qui concernait la Russie. L'idée, c'était de montrer que, essayer de réfléchir en tout cas, de manière géographique, en voyant à quel point le territoire de l'impérialisme revanchard était plus important que celui qui avait été contrôlé par l'ancien régime, c'est-à-dire celui qui, avant de la Révolution nationale, avant de s'effondrer. Et partant de là, essayer de faire une sorte de projection. D'accord? Donc, cette carte que j'avais faite, c'était en gros, ça montrait en 1980, voire 1985, c'est-à-dire au moment de la guerre d'Afghanistan, ce qui avait été l'apogée de l'Empire soviétique, c'est-à-dire avec le contrôle de la totalité du pacte de Varsovie, plus même l'Afghanistan, pendant un moment. Et donc je me disais, si on compare avec ce qui était, je ne vais pas vous remettre les cartes, mais vous l'avez en tête peut-être, parce que si je dois vous mettre les cartes, ça va être un petit peu compliqué, ça va me prendre du temps encore. Si on compare avec ce qu'était si vous prenez l'expansion je vais être obligé de vous la mettre cette carte en fait, parce que je suis en train de vous dire des trucs, mais si vous ne pouvez pas le visualiser, ça va être problématique. Alors attendez, laissez-moi une seconde. Je dois la voir quelque part. Je vais vous rappeler oralement de quoi il est question, attendant. Vous vous souviendrez que si vous regardez le contrôle qu'a pris la France napoléonienne sur toute l'Europe, on est très loin de ce qui avait été l'apogée de l'Ancien Régime. Naturellement. La France n'avait pas, comment dire, dominé la totalité du territoire européen, ou la quasi-totalité du territoire européen, on va dire jusqu'au Yémen, et toute l'Espagne. Ça n'avait pas été le cas hein, sous l'Ancien Régime, sous la France d'Ancien Régime. De la même manière, si vous regardez l'Allemagne hitlérienne, pendant, on va dire, l'apogée du Troisième Reich, vous avez un contrôle du territoire européen qui est bien au-delà de tout ce que on a pu voir pendant la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire à l'époque de la domination de l'Empire allemand. Voilà, alors je vais vous la mettre. Voilà, alors là ça s'affiche en gros, c'est pas grave, c'est pas beau, mais comme ça vous le voyez. C'était ça, le grand parallèle que j'avais fait de la totalité de ces cas. Donc là, vous voyez ce que je viens de vous dire sur la France, sur l'Allemagne. La France, l'apogée territoriale de l'Ancien Régime, c'était pendant la guerre de 7 ans, quand on était arrivé jusqu'en Allemagne. C'était des occupations, hein, ce n'était pas des annexions, mais enfin, c'était important. Et ensuite, naturellement, par rapport à l'apogée de l'Empire napoléonien, on est sur quelque chose, sur tout à fait autre chose. Vous avez l'Allemagne, pareil, hein, si vous prenez les empires centraux, il faut prendre vraiment tout l'espace germanique, pas juste l'Empire allemand, et que vous leur additionnez ce qu'ils ont contrôlé pendant la Première Guerre mondiale, avec les territoires qu'ils ont occupés, vous vous apercevez naturellement que l'expansion de l'Allemagne d'Hitler a été considérable. Expansion en tenant compte à la fois des pays qui ont été occupés, les pays qui étaient alliés, etc. Hein. Bien sûr, et donc je vous avais mis aussi les cas de Carthage, du Japon, de la Macédoine, etc. Et donc c'était sur la base de ce parallèle-là que je disais, logiquement, ce qui va se passer, c'est que pour l'URSS, donc pour la Russie, désormais, ça donnera ça. C'est-à-dire quelque chose qui concernera un espace bien plus important que l'espace soviétique tel qu'il était contenu. Bon. Et en fait, j'ai eu une petite réflexion là-dessus qui m'est venue, qui fait que je ne suis pas sûr que ce soit comme ça qu'il faille réfléchir. Et je vous ai fait cette petite carte pour que vous voyez ce que je veux dire. Là, vous. Je me décale un petit peu par là. Voilà. Là, vous avez une carte qui vous montre trois frontières, trois types de frontières. Vous avez en bleu ce qui était la frontière de l'Empire russe en 1914, c'est-à-dire à la veille de la Grande Guerre. C'est l'Empire russe qui était le premier ancien régime de la Russie, naturellement, qui s'est effondré avec la première révolution nationale en 1917. Et là, vous avez la frontière qui a été ramenée à la ligne noire, on va dire. Et je fais court, hein, parce que ça, c'est le territoire qui a été repris une fois que l'Ukraine a été reprise partiellement par les soviétiques pendant les guerres autour de 1920, mais bon, j'insiste pas. Juste pour vous donner une idée. Donc, pour vous montrer le recul de la ligne bleue à la ligne noire en début de révolution nationale, de la première révolution nationale russe. Et ensuite, la ligne verte que vous avez, c'est la ligne de 1945, sous Staline. Bon. Or, vous le savez, Staline était lui-même l'impérialiste revanchard russe, soviétique. Bon. Et donc, ce qu'on voit avec la ligne de contrôle du territoire en Europe, la ligne d'expansion, de domination de l'Empire soviétique en 1945, sous Staline donc, les conquêtes de l'impérialiste revanchard, c'est ça, le pacte de Varsovie en fait c'est une conquête de l'impérialiste revanchard stalinien, et ben vous vous apercevez que c'était une ligne qui avait une frontière qui avait avancé de 400 ou 500 km par rapport à ce qu'avait été la domination maximale de la Russie, déjà, de l'Empire russe, pardon, déjà. Donc il y avait déjà cette avancée-là. Et si on raisonne pas en termes de juste projection, mais en termes de centre de gravité de la puissance russe, c'est-à-dire que vous prenez grosso modo Moscou. Parce qu'en général, dans les autres projections que je vous ai montrées, en fait, comme c'est une sorte d'explosion finalement, hein, stratégique. Pour dire ça vite, l'impérialiste revanchard, ben, c'est toujours, ça se diffuse autour et de manière assez uniforme du centre qui est le territoire proprement national. Et donc, si vous regardez ça comme ça, ben, il n'est pas impossible qu'en fait l'impérialisme revanchard stalinien avait déjà atteint le maximum de ce que peut atteindre un impérialiste revanchard russe, et donc il n'est pas impossible que le maximum que pourrait éventuellement, et je vais y revenir dans un instant, atteindre l'impérialisme revanchard poutinien, ce soit cette ligne verte. Et pas au-delà, hein, c'est-à-dire pas jusqu'au Rhin, pas jusqu'à l'Italie, etc. Juste cette ligne-là, parce qu'elle correspondrait déjà à ce qui doit à ce qui peut éventuellement se passer. Et si on raisonne qu'en termes d'une avancée de 400 ou 500 km de la part des Russes, en pensant que c'est juste ça l'avancée qui est importante, la distance, ben, ça vous amènera quelque part sur la ligne bleue, là, finalement. C'est-à-dire ce qui était déjà l'Empire russe à l'époque. Donc ça serait une Russie qui arriverait à s'étendre, grosso modo, sur l'essentiel de l'Ukraine, sur les Pays-Baltes, peut-être en Finlande, et à déborder un peu sur la Pologne. Bon, on va voir tout de suite qu'est-ce qu'il est possible d'envisager là-dessus. Mais ça, c'était on va dire le préambule que je voulais mentionner avec vous. Alors ça, je vais y revenir dans un instant. Non, d'ailleurs, je vais y revenir tout de suite. Voilà. Alors ça, c'est un autre truc dont je parlais dans l'Atlas des guerres à venir. C'est-à-dire, je rappelais que le début des impérialistes revanchards, ce qui les caractérise, c'est qu'ils arrivent dans les premiers mois, c'est-à-dire les moments où ils se montrent véritablement explosifs, on va dire, le moment où ils passent véritablement à l'attaque, pas les premières extensions territoriales hein, qui peuvent être sur les marges. Non, c'est ce qui qu'on considère habituellement véritablement comme le début de la guerre. Ça se fait toujours de la même manière. C'est-à-dire que vous avez une bataille d'encerclement menée avec beaucoup d'audace qui permet ensuite de faire tomber le premier ennemi. Et à partir de là, ça donne de l'élan, pour ainsi dire, à l'impérialiste revanchard. Et ça conditionne un peu la suite de la guerre. C'est-à-dire que si l'impérialiste revanchard réussit ce premier mouvement, ensuite vous avez une guerre qui est relativement longue. Et ce premier mouvement, il se trouve, y compris chez les impérialistes revanchards, un peu raté. Hein, je vous parlais de percée de Macédoine tout à l'heure qui n'était pas allé loin. Ben néanmoins, il réussit au début avec cette petite bataille de Kalinikos où il défait une première fois les Romains, même s'il n'arrive pas à les poursuivre, à les mettre en déroute, etc. Mais il arrive à les repousser. Et bien c'est ça en fait qui fait que la guerre dure. Parce que s'il était battu dès le début, ça serait terminé. Bon. Et je rappelais ça, donc ça c'était dans l'Atlas des guerres à venir au début, pour faire des petites projections, pour rappeler que c'est comme ça que Napoléon, par exemple Napoléon, il hérite du territoire français agrandi, on va dire déjà, au cours des guerres révolutionnaires. Il annexe ensuite la Suisse, c'est ça qui déclenche grosso modo la reprise de la guerre en 1805. Et là, alors que, ça c'est le syndrome du vainqueur de la guerre d'avant dont je vous parle souvent, alors que les alliés, enfin les coalisés espéraient qu'ils allaient réussir à faire s'enliser la France en Allemagne, comme ils l'avaient fait dans la guerre d'avant, c'est-à-dire pendant la guerre de 7 ans, où les Français avaient subi la défaite de Rosbach, eh bien, Napoléon, lui, ne va pas se faire enliser. Au contraire, il se précipite, il va beaucoup plus vite que ce que pensaient les autres. Il encercle les Autrichiens à Ulm, donc là où il y avait leurs forces d'attaque, en fait. Donc, il désarme leurs forces d'attaque. Ensuite, il fonce sur Vienne, il prend Vienne, et il enfonce le clou avec la bataille d'Austerlitz dans les mois qui suivent. Voilà. Comment ça se passe? Et à partir de là, ben, il a conquis. Ça lui permet de rétablir, avec l'indemnité de guerre autrichienne, ça lui permet de rétablir les finances de la France. Ensuite, vous avez la suite. Hein, vous avez ensuite la guerre contre la Prusse en 1806, etc. Mais c'est véritablement la victoire initiale et la très grande victoire de Napoléon. Austerlitz, elle se passe comme ça. Et c'est ça qui ouvre les guerres napoléoniennes par un succès retentissant qui va faire durer la guerre. Hein. Si les Alliés avaient réussi à le faire s'enliser en Allemagne, ça ne se serait pas passé pareil, mais ce n'est pas comme ça que c'est passé. En bas à gauche, vous avez le cas de l'Allemagne, d'Hitler. Hitler envahit la Pologne, ça déclenche la guerre avec les Alliés. Ensuite, vous avez la drôle de guerre. Et ensuite, alors que les Alliés comptaient s'abriter derrière la guerre Maginot, repartir sur une guerre longue et refaire le coup de la Grande Guerre, eh bien là, vous avez le coup de faucille de la percée de Sedan. Les Français et les Anglais enfermés à Dunkerque, les Français qui restent, les Anglais qui arrivent à partir, mais par la mer. Et ensuite, la route de Paris qui est ouverte, et la France qui tombe. Et là, la France qui tombe, ça permet à l'Allemagne de mettre la main sur, sur beaucoup d'argent, parce qu'ils vont payer, qu'ils vont permettre de fournir leur effort de guerre par la suite, sur énormément de matériel aussi, puisqu'il y aura des chars français qui seront utilisés pour le combat en Europe, de la même manière que les Allemands d'ailleurs avaient piqué les chars tchécoslovaques. Ils prendront aussi les tenues les tenues d'hiver de l'armée française qui serviront une fois que la guerre à l'Est s'enfoncera dans l'hiver, etc. Ça permettra de faire durer la guerre à l'Allemagne, tout simplement. Si l'Allemagne n'avait pas pu mettre la main sur la France, elle n'aurait pas pu faire durer la guerre comme ça, parce qu'en plus, elle a bénéficié du service du travail obligatoire qu'elle a imposé à la France, etc. Donc ça lui a servi de multiples façons à nourrir son effort de guerre. Et donc ce que j'envisageais comme projection pour un truc comme ça, sachant que donc, dans l'Atlas des guerres, je n'avais pas mis cet exemple parce qu'à l'époque, je n'avais pas compris que le Japon de 1941 était aussi de l'impérialisme revanchard. Mais le Japon, vous pouvez voir la même chose. Hein, c'est pareil, c'est Pearl Harbor, c'est une façon de contourner l'obstacle, là aussi, d'aller taper directement chez l'adversaire. Ce qui ouvre ensuite un espace stratégique qui permet au Japon de s'emparer des ressources de l'Asie du Sud-Est et donc de faire durer la guerre bien au-delà de ce... En gros, il restait au Japon, c'est pour ça qu'ils se sont lancés à la guerre, il leur restait à peu près 18 mois de consommation de pétrole et finalement, ils ont réussi à faire durer la guerre deux fois plus que ça, quoi, grâce aux ressources qu'ils ont pu capter en Asie du Sud-Est. Donc la façon dont je projetais ça, c'était voilà, c'est sur la base de ça que je projetais l'attaque en direction des pays baltes et qui serait l'équivalent de l'invasion de la Pologne, donc le truc qui déclenche la guerre contre l'OTAN. Ensuite, comme il fallait à ce moment-là imaginer un encerclement qui devait avoir lieu d'une certaine manière, hein, si on fait un truc qui serait l'équivalent d'Ulm ou de Dunkerque, ça pourrait être face au corridor de Suwalki, c'est comme ça que je l'imaginais, en Pologne, et auquel cas, et notamment, je ne vous ai pas remis l'image là ce soir, mais on sait que, et c'est l'exercice Anaconda de 2016, l'OTAN, en cas d'invasion des Pays-Baltes, enverrait sa force de réaction, et l'idée, c'est qu'il y a toute une opération qui serait faite pour amener les forces là où vous avez le 2, là, en fait, hein, sur l'image, c'est-à-dire au nord-est de Varsovie, face au corridor de Suwalki. C'est là que les troupes de l'OTAN devraient se concentrer. Donc éventuellement, un contournement de la force de réaction rapide de l'OTAN, hein, qui serait écrasée par les Russes d'une manière dont j'ignore encore comment ça pourrait se passer vu ce qu'ils ont fait en Ukraine, mais enfin, on peut essayer d'imaginer ça. Et Et auquel cas, ensuite, bah, si une telle chose arrivait, naturellement, la route de Berlin serait ouverte, et Berlin, c'est un peu la capitale de l'Europe en partie. Donc, en tout cas, c'est ce que j'avais imaginé dans l'Atlas des guerres à venir. Donc, la question, c'est à quel point c'est plausible aujourd'hui, surtout qu'aujourd'hui, on a une autre chose qu'on sait désormais, c'est que, ben, les Russes n'ont pas été magiques en Ukraine. Bon, et l'Ukraine, c'est pas l'OTAN. Alors, c'est de plus en plus l'OTAN, la façon dont on les a armés, etc. Depuis, mais enfin, à la base, c'est pas l'OTAN. Même s'ils ont une masse humaine, pour le coup, que l'OTAN n'avait pas, aura du mal à avoir, en tout cas aura du mal à avoir rapidement. Mais voilà, ça n'a pas été magique, je veux dire, il y a tout un tas de trucs pour lesquels il faudrait vraiment être très performant contre l'OTAN, où les Russes n'ont pas été magiques. Par exemple, on se souviendra que quand ils ont attaqué en 2022, ben, leurs missiles de précision n'ont pas été si précis que ça. Hein. Vous vous souviendrez sans doute des pistes des aéroports militaires qui n'ont pas été neutralisées parce que ben, les missiles n'étaient pas assez précis. C'est-à-dire, ils tapaient à 10 mètres de l'endroit où il fallait, et à 10 mètres, ben, ça vous empêche de bousiller la piste, quoi, hein, tout simplement. Donc tout un tas de problèmes technologiques comme ça, qui sont peut-être encore là, qui sont peut-être plus là, mais enfin qui font douter de la possibilité que tout ça arrive. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il faut revenir là-dessus, se reposer les questions et essayer surtout, et c'est ça que je vais essayer de faire avec vous ce soir, faire un petit exercice dans lequel on va essayer de voir d'étape en étape qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce qui est probable, et surtout avec une sorte d'arborescence, si vous voulez. C'est-à-dire en disant quelle est la probabilité que ça, que le pire ou le mieux se passe. Et ensuite, en partant, quelle est la probabilité que les choses évoluent de quelle manière ? Pour essayer de savoir à la fin, pas avoir juste un scénario ou deux scénarios, mais dire, voilà, grosso modo, alors c'est forcément un peu du doigt mouillé, parce que je ne le calcule pas comme ça, mais je vais vous expliquer au fur et à mesure ce que j'en pense. Vous pourrez refaire le calcul chez vous en disant, ben non, c'est plutôt, je mettrai plutôt telle probabilité ou quoi. Mais voilà, c'est doigt mouillé, c'est pour avoir une petite idée, quoi. Une petite idée des chemins que la réalité pourrait prendre, sachant que de toute façon, pour moi, tous les chemins historonomiques mènent à Rome, et Rome, à la fin, c'est la défaite de la Russie. Voilà. Je sais qu'il y a, alors, probablement ça énervera les pro-russes, mais les pro-russes n'ont qu'à réfléchir à une seule chose. Les pro-russes pensent que l'Ukraine a perdu depuis le premier jour, ne serait-ce qu'à cause de la masse de la Russie, l'Ukraine ne peut pas gagner. Bon, ben à ce moment-là, si vous étendez ce raisonnement, la Russie ne peut pas gagner à cause de la masse de l'Europe, à fortiori de la masse de l'Occident. Donc la question doit être résolue. À la fin, vous savez qui c'est qui va gagner. Bon, la question, c'est comment ça se passe et quels sont les degrés de... comment dire de destruction et de il y a quelque chose d'une certaine manière, puisque chaque fois qu'il y a quelque chose, qu'il y a un développement, un pays qui tombe, etc., c'est dû à quelque chose, pour reprendre les termes habituels, il y aura qu'est-ce qu'il y aura, hein, tout simplement. Et donc, à la fin, on aura quelque chose comme ça, voilà, je vous le mets dès le début que vous voyez, pour savoir, d'après moi, hein, quelles sont les choses qui peuvent se passer. Mais je vais vous détailler tout ça d'image par image. Alors, donc, on va commencer avec la situation actuelle. Alors, la situation actuelle, c'est celle-ci. Alors, je vous donne le code couleur, assez simple. Naturellement, le bordeaux, c'est la Russie, Fédération de Russie. Rouge, c'est ce que je considère comme étant territoire occupé par la Russie. Et jaune, on va dire que c'est un territoire qui subit ou qui est destiné à subir pendant la guerre une confrontation militaire significative. Donc ça peut être du déploiement de troupes, bon, c'est le cas de l'Ukraine actuellement qui est en guerre, mais ça peut être aussi des frappes de drones, de missiles, etc., sur l'ensemble du territoire ou sur une partie importante du territoire. Ça va être le code couleur que je vais essayer de développer avec vous, puis vous verrez, il y aura d'autres choses un petit peu dans ce genre-là. Alors, ça m'énerve ce truc-là. Non, c'est toujours pas... Voilà. Parce que sinon, je vais être obligé de me tordre pour que la vision soit pas trop désagréable. Donc, ça, c'est la situation actuelle, avec une Biélorussie qui est essentiellement dans la main de la Russie, avec une Ukraine qui a une partie de son territoire qui est déjà occupée par la Russie, et qui, par ailleurs, est en guerre directe avec la Russie, et l'objet régulier de frappe de la part de la Russie. Donc là, c'est très simple, ça va pas très loin, on est d'accord, on sait ce que ça donne. Première hypothèse, c'est l'hypothèse de base, on va l'évacuer dès le début. La Russie n'aura jamais l'audace de se lancer dans ce qui est normalement l'escalade de l'impérialisme Ravanchard. Donc la Russie ne fera jamais ce qu'a fait le Japon, par exemple, ce que je vous racontais la semaine dernière, et ce qui est mon hypothèse de départ pour un impérialiste revanchard véritablement réalisé du côté russe. Mais écartons, peut-être, que ça ne se passerait pas, parce que finalement, Poutine serait un impérialiste revanchard contrarié, quelque chose comme ça. Et donc, par une sorte de miracle, les frappes sur les raffineries, etc., suffisent à faire s'effondrer la Russie, voilà, toute seule, sans que la Russie tente jamais d'attaque directe sur le territoire de l'OTAN. À ce moment-là, logiquement, l'issue de la guerre, ça sera ça, d'après moi. C'est-à-dire, alors, j'enlève pas tout, vous savez que d'après moi, la chute, la défaite de la Russie, ça voudra aussi dire son le démembrement de son territoire, notamment la perte d'une bonne partie de territoire à l'est éventuellement. Mais ça, j'en parle pas ce soir. En tout cas, je pense qu'à minima, l'Ukraine récupérerait tout son territoire, dont Trump a déjà parlé, et probablement qu'on confisquerait Kaliningrad à la Fédération de Russie. Voilà. Voilà, auquel cas, je pense pas qu'on donnerait le territoire de Kaliningrad à qui que ce soit. Ça deviendrait probablement une espèce de paradis fiscal ou un truc comme ça, probablement comme le Luxembourg indépendant. C'est comme ça que j'imagine ça, en tout cas. Bon. Mais c'est pas... voilà. Et alors ça, honnêtement, et vu tout ce que je vous ai dit la semaine dernière, je dirais 5%. C'est doigt mouillé, encore une fois. Hein. Mais très honnêtement, vu les choix qu'a déjà fait Vladimir Poutine, vu tout ce qui se passe depuis un mois et vu tout ce que je vous ai dit la semaine dernière, je dirais que l'idée que les Russes ne tentent rien directement contre l'OTAN, c'est 5%. Pour moi, 5% de chance qu'on passe de ça à ça. Alors, ça prendrait un moment, quelques mois ou années, mais voilà, ça y, grosso modo, ça irait pas beaucoup plus loin. Bon. On revient à ce scénario-là. Pour moi, il y a 95% de chances que les Russes essaient d'envahir les pays baltes. En quel cas, ça donnerait ça. Bien sûr que les Russes essaient d'envahir les pays baltes, c'est-à-dire que Vladimir Poutine fasse le grand saut, on va dire, à la japonaise 1941 Pearl Harbor. Il y a 95% de chances que ça arrive. Je ne pense pas qu'il y ait 95% de chances que ça réussisse. Encore une fois, vu la performance russe en Ukraine. Mais en même temps, comme j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer, les pays baltes, c'est très vide. Hein, il y a une population de 6 millions d'habitants. C'est 5 fois moins peuplé que l'était l'Ukraine quand Poutine l'a envahi. Il y a, en comptant les troupes de l'OTAN, il doit y avoir à peu près 50 000 hommes armés, alors qu'il y en avait 200 000 ou 250 000 en Ukraine quand les Russes ont envahi. Donc avec l'armée russe telle qu'elle s'est développée aujourd'hui, les capacités de production russes en matière de drones, etc., en gros, si les Russes essayent d'envahir les États baltes avec 150 000 hommes, et qu'ils font ça assez rapidement sans que l'OTAN puisse réagir, je pense qu'ils sont capables de les prendre. Je pense pas que l'OTAN soit capable d'empêcher les Russes de faire ça juste avec de l'aviation. Si vous pensez que c'est possible de faire ça juste avec une intervention de l'aviation, etc., je pense qu'il vous suffit de repenser à ce qu'a été la contre-offensive ukrainienne de l'automne 2022. Vous vous souviendrez quand ils ont déferlé comme ça, qu'ils ont repris Kupiansk, qu'ils ont repris des quantités très importantes de territoire dans l'Est. Les Russes qui manquaient d'hommes ont essayé de les arrêter justement avec leur aviation et avec leur artillerie, et ils n'y sont pas parvenus. Donc parce que la masse ukrainienne était beaucoup trop importante, et donc vous pouvez pas juste utiliser de l'aviation pour arrêter ça. Donc je pense que la simple masse russe dans cette hypothèse là suffirait à s'emparer au moins des pays baltes, au moins temporairement des pays baltes. Et donc j'estime là encore c'est du doigt mouillé, mais disons que je suis moins sûr en raison des comptes de performance, mais en raison de tout ça, je dirais que je vois 80% de chances que les Russes arrivent à s'emparer des pays baltes. On va dire 20% de chance, un scénario dans lequel ils n'y arrivent pas. S'ils n'y arrivent pas, on retombe sur le scénario précédent. C'est-à-dire, ils sont repoussés, ils continuent de se battre un peu en Ukraine, ça s'effondre et on retombe sur la carte qui était là. Hein, voilà. Éventuellement, il se passerait ça. Bon. Sinon, on est là. Sinon, on est là. Ensuite, une fois qu'on en est là, une fois qu'on en est là, attendez, je vais essayer de me rouvrir mes images derrière parce que sinon, que je suive la progression de mon conducteur. Une fois qu'on en est là, la suite, c'est que si on a une invasion réussie des Pays-Baltes, donc je vous disais 80% de chance, je pense qu'à ce moment-là, on aurait la transformation, à minima, la transformation d'une bonne partie du territoire européen en champ de bataille. En champ de bataille, je le répète, je ne dis pas que ça veut dire que les Russes vont essayer de tout envahir d'un coup, je dis que ça veut dire que tous ces territoires, et en fait ils le sont déjà, vont devenir vraisemblablement la cible de drones russes. Hein? C'est-à-dire de frappes de drones dans la profondeur, de tentatives de sabotage, etc. Alors bien sûr, il y en aura probablement aussi des sabotages en Allemagne et dans d'autres pays, mais disons que ça, c'est les pays qui pourront être relativement facilement touchés, qui sont déjà à portée, en tout cas qu'on a déjà vu. Atteint par des présences massives de drones pendant le mois écoulé. Donc à minima, on aurait quelque chose comme ça. Encore une fois, la nouvelle projection du scénario, il est possible que les choses n'aillent pas plus loin que ça. N'aillent pas plus loin que ça. Et auquel cas, encore une fois, à la fin, on retombe sur le scénario que je vous ai dit avant, c'est-à-dire qu'à la fin, la Russie perd parce que, je sais pas, elle est trop fatiguée économiquement, qu'elle n'arrive pas à aller jusqu'au bout, etc. Bon. Néanmoins, il y a aussi une hypothèse alternative. Et j'ai envie de dire que le gros goulot d'étranglement, beaucoup plus que sur les premières étapes, vous avez vu, on était à 95-80%, donc je pensais que ça allait plutôt dans un sens que dans l'autre. Là, je pense qu'on a un goulot d'étranglement d'une certaine manière, parce que la question à ce stade-là, c'est pour moi, est-ce que l'Ukraine arrive à tenir toujours ou pas? Pourquoi? Parce que, à mon avis, une fois qu'on est dans ce scénario-là, l'essentiel des efforts, je vous rappelle que l'idée de l'impérialiste revanchard, c'est, et en particulier dans le scénario à la japonaise, c'est d'escalader pour enfin battre celui contre lequel on était en train de s'enliser, et afin d'obtenir des résultats stratégiques importants. D'accord? En l'occurrence, si les Russes attaquent l'OTAN, ce que je vous disais la semaine dernière, ça sera parce qu'ils pensent que c'est le seul moyen de gagner la guerre en Ukraine, définitivement. Or, je vous rappelle que dans l'esprit de Poutine, la guerre en Ukraine, et gagner la guerre en Ukraine, c'était le moyen d'obtenir, comme résultat stratégique, le repli de l'OTAN, montrant que la Russie était capable de battre l'OTAN, ou une armée alliée de l'OTAN. Donc là, par exemple, la Russie aurait réussi à envahir les Pays-Baltes avec une partie de son armée. Néanmoins, il resterait que l'essentiel de l'armée, il doit y avoir 500 ou 600 ou 700 000 hommes sur le front en Ukraine, serait toujours bloqué en Ukraine. Il ne serait pas utilisable ailleurs. Alors là, il y a deux hypothèses. Soit les Russes distrairaient des troupes importantes depuis l'Ukraine pour essayer de les envoyer sur d'autres théâtres. C'est-à-dire outre les Pays-Baltes, attaquer en Finlande, attaquer en Pologne, etc. C'est possible, c'est une première possibilité. Mais ça serait très compliqué quand même si encore il y avait de l'enlisement en Ukraine. Je pense que la stratégie prioritaire, ça serait d'affaiblir ce que je vous disais, le calcul pour Poutine, c'est les Ukrainiens, ils ont les troupes, les Européens ont le matériel, grosso modo, hein. Donc l'idée, c'est de priver les Ukrainiens du matériel européen, et ensuite les Européens, ils auront le matériel, mais pas les troupes. Si les Ukrainiens sont battus, donc on se fera les Européens. Donc si on suit ce raisonnement que je vous ai fait la semaine dernière, et dont je pense que c'est celui qu'il doit y avoir dans les têtes russes, et notamment dans la tête de Vladimir Poutine, à ce moment-là, vraisemblablement la priorité, ce serait d'utiliser tous ces bombardements pour fatiguer les Occidentaux et, comment dire, tarir la source du soutien équipementier à l'Ukraine. Je vous rappelle que L'Ukraine dépend pour autour de 45% de son matériel, et essentiellement tout le matériel lourd, des livraisons européennes. Et même une bonne partie des drones qui sont fabriqués par l'Ukraine même, c'est grâce à des produits qui sont des composants qui sont livrés par les Européens. Hein. Ou les Américains via les Européens, mais enfin, c'est la même chose. Donc l'idée, c'est que toutes ces frappes-là serviraient à faire s'effondrer le front ukrainien. Et c'est pour ça que je dis que c'est le gros goulet d'étranglement, parce que comme vous le savez, comme je vous l'ai dit, déjà, un, l'Ukraine a montré sa capacité de résistance jusqu'ici. Deux, l'Ukraine lui-même étant en phase d'impérialisme revanchard historionomique, ils sont hyper motivés, aussi motivés que l'étaient par exemple les Soviétiques en 1942 ou les Chinois à la même époque. Et donc, ils sont capables d'avoir des trésors de motivation pour toujours tenir et lutter. Mais donc ça, c'est un argument qui poussera à dire que ça ira pas plus loin que ça, parce que les Russes n'arriveront pas à faire s'effondrer l'Ukraine, même en arrivant à tarir les sources d'équipement. Bon. Ou partiellement. Bon. Ça, c'est possible. L'autre solution, c'est que, ben, si, que malgré tout, même avec tous les efforts de l'Ukraine, eh ben, si les Russes arrivent à tarir l'apport de matériel occidental, et en plus, si les Russes arrivent à vraiment écraser les Ukrainiens sous les drones et les missiles, ce qui est possible, hein, puisque la production de drones Garand, par exemple, les drones qu'ils utilisent le plus pour bombarder véritablement, les Russes devraient en fabriquer. Actuellement, ils en fabriquent, en août-septembre, ils en fabriquaient 2700 par mois. Et la production, j'ai demandé à Grok l'autre jour, c'est lui qui me l'a dit, est censée monter à. Les Russes espèrent qu'elle montera à plus de 5500 à la fin de l'année, donc à partir du début 2026. Ça fait deux fois plus encore, ou plus de deux fois plus de drones. Qui pourraient tomber sur les Ukrainiens. On peut se demander à quel moment ils vont avoir certaines lignes qui vont craquer, quoi. Donc à partir de là, comme j'ai pas de plus de capacité prédictive de ça que ça, je dirais qu'il y a 50% de chance. 50% de chance que l'Ukraine... c'est vraiment très doigt mouillé, là, encore une fois, et je le reconnais devant vous. Bon, peut-être que vous aurez votre opinion, mais vous referez le calcul avec ça. Disons que, voilà... Comme je ne suis pas en mesure de dire plus, je dirais c'est 50-50. 50% les Ukrainiens seront capables de tenir, 50% les Ukrainiens vont s'effondrer sous la pression, et à ce moment-là, l'Ukraine s'effondre. Et à ce moment-là, si l'Ukraine s'effondre, ça change énormément de choses. Ça change énormément de choses parce qu'on bascule, à mon avis, dans quelque chose comme ça. Pourquoi ? Parce que... Si l'Ukraine s'effondre, ça veut dire qu'il n'y a plus l'armée ukrainienne entre la Russie et l'Europe. Donc ça libère des centaines de milliers de soldats russes qui sont capables de faire des opérations contre le reste de l'Europe. Bon. Ça permet aux Russes de s'emparer de l'appareil productif militaire des Ukrainiens, de leur production de drones, ce qui est extrêmement importante. Je veux dire, c'est l'équivalent à ce moment-là de ce que ça a été pour Hitler de prendre la Tchécoslovaquie. C'est-à-dire que tout d'un coup, il s'emparait de tout un stock. Je crois qu'il disait que ça lui avait permis d'équiper une soixantaine de divisions, un truc comme ça. C'était colossal, l'équipement que les Allemands ont pris. Je veux dire, la France, la Pologne et la France ont été envahies aussi en utilisant des chars qui avaient été pris aux Tchécoslovaques. Il faut se rendre compte de ça. Il y avait un effet cumulatif comme ça dans l'impérialisme revanchard. Bon, et ça amènerait en plus les Russes sur la frontière de la Moldave et derrière la Roumanie. Je ne pense pas que la Moldavie ni la Roumanie seraient capables, s'ils voyaient arriver 500 000 soldats russes comme ça, de tenir. Et vraisemblablement, l'OTAN n'aurait pas la capacité de les arrêter non plus. Ou alors, il faudrait qu'on ait réussi à réunir suffisamment de monde entre-temps. Là aussi, ça dépendrait du temps qu'aurait mis l'armée ukrainienne à s'effondrer. Si ça met un an, bon, y a des chances que l'OTAN soit bien préparée derrière. Si ça met moins de 6 mois, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc à ce moment-là, vous auriez effectivement un déferlement. Je le répète, je pense que si l'Ukraine tombe, grosso modo, vous avez la Moldavie et la Roumanie qui tombent derrière. Je vois pas comment elles pourraient résister. Si vous avez la Moldavie et la Roumanie qui tombent, il est vraisemblable que vous aurez tout un tas de pays aujourd'hui qui sont plutôt pro-russes. Alors, c'est à nuancer. Par exemple, Orban a dit avant-hier, à côté, alors qu'il était à côté de Donald Tusk, en gros, mais faut pas qu'on ait peur des Russes, on est beaucoup plus nombreux qu'eux, on est beaucoup mieux armés, on a une raison d'avoir peur d'eux. Étonnant de la part de. Je crois qu'il l'avait déjà dit il y a quelques années. D'Orban. Donc je pense que Orban, lui, il serait prêt à se battre avec une Union européenne qui serait véritablement en position de force. Mais je pense qu'il resterait tout aussi capable de se coucher s'il voyait que le momentum était du côté de la Russie, surtout si la Russie arrivait sur sa frontière. Et donc, et pareil pour la Slovaquie de Fico, et pareil pour la Serbie aussi, qui est un allié traditionnel de la Russie. Donc s'ils voyaient arriver la Russie jusqu'à leur frontière, je ne pense pas qu'ils resteraient fanatiquement pro-OTAN. Tout ça, c'est important. Pourquoi? Parce que ça veut dire que si jamais, dans ce scénario où vous avez une Ukraine qui s'effondre, et à ce moment-là, les Russes qui arrivent en Moldavie et en Roumanie et qui débordent tout ça là-dessus, il est vraisemblable que vous aurez là ces trois pays-là, qui représentent quand même pratiquement 20 millions de personnes, hein, ça fait quand même du monde, au cœur de l'Europe, qui, c'est pour ça que je les ai mis en orange, c'est une autre couleur, qui probablement plongerait dans une espèce de vassalité automatique, c'est-à-dire, ou en tout cas de neutralité qui profiterait à la Russie, si vous voulez. Dans le sens des types qui diraient, bon ben nous, considérez qu'on est out, quoi. Hein. Vous ne faites pas traverser vos troupes pour aller au secours de la Roumanie, on veut rester en dehors de ça, donc on se déclare neutre, véritablement. Mais à ce moment-là, ça crée une espèce de couloir comme ça, infranchissable, pour l'OTAN, pour aller défendre, essayer de se rebattre en Roumanie. Très compliqué. Bon. Et également, ça amènerait la guerre jusque sur le territoire bulgare, vraisemblablement. Peut-être que la Bulgarie se deviendrait automatiquement plus neutre, c'est possible aussi. Je ne l'ai pas mis là, parce que la Bulgarie, vu qu'elle serait entre la Roumanie et la Turquie, je pense qu'elle deviendrait assez vite un terrain d'affrontement, justement, entre la Turquie, qui est dans l'OTAN, et la Grèce, et la Russie. Mais donc voilà, je laisse en jaune, ça pourrait aussi faire partie de cet arc, surtout que, là, encore une fois, là on parle de pays qui étaient des anciens pays de l'espace du pacte de Varsovie soviétique. Donc il peut rester des trucs, si vous voulez. Mais voilà, il est possible aussi que simplement la Russie, si vous voulez, si j'ai pas mis la Bulgarie en rouge, c'est parce que si l'armée russe déferlait également en Bulgarie, je pense qu'à ce moment-là, vous auriez les Turcs qui se porteraient à la rencontre du truc. Il ne laisserait pas la Bulgarie tomber aux mains de la Russie. Ça plairait pas du tout à Erdogan. Donc voilà pourquoi je laisse en jaune. À mon avis, ça deviendrait un terrain de lutte. Voilà, pas un truc purement et simplement occupé par la Russie. Bon, à partir de là, qu'est-ce qui se passerait d'autre? Difficile d'aller plus loin en Pologne, parce que, quoique. Donc à ce moment-là, les Russes. Mais bon, il faudrait imaginer derrière qu'avec cette force russe qui, une fois la Roumanie et la Pologne occupées, donc je rappelle, hein, la Russie à ce stade-là, il devrait avoir une armée d'un million d'hommes, mettons qu'ils en aient perdu un peu, de 800 000 hommes, sur le pied de guerre, sur toute cette ligne-là, alors qu'encore une fois, on manque de masse en Europe. Bon. La Pologne probablement pourrait résister, il y aurait tout l'effort, il serait concentré côté européen. Ça pourrait s'arrêter là, mettons. L'OTAN pourrait arriver à empêcher la Russie d'aller plus loin en Pologne, et à ce moment-là, on se retrouverait avec ça, et encore une fois, au bout de quelques années, la machine de guerre russe finirait par s'épuiser, la Russie s'effondrerait, et vous aurez le scénario que je vous ai mis avant, c'est-à-dire tout s'effondre, les Russes perdent Kaliningrad, etc. Néanmoins, il faut bien se rendre compte à ce stade-là que si on est arrivé à ce niveau-là de guerre, il se sera passé d'autres choses dans le reste du monde. Les Occidentaux seront tellement occupés en Ukraine, en Europe, par exemple, dans un tel scénario, qu'il est vraisemblable que les Chinois se seront lancés à la conquête de Taïwan, ou auront tenté quelque chose dans cette direction-là. J'ai pas le temps de venir dessus ce soir parce que c'est pas le sujet, mais probablement qu'il y aurait eu des trucs aussi au niveau de l'Iran. Vous savez que l'Iran est en train de se réarmer massivement. Il a commencé auprès des Chinois, il est vraisemblablement en train de le faire auprès des Russes, hein, puisqu'on voit, semble-t-il, pas mal d'avions cargo qui vont régulièrement en Iran depuis la Russie en ce moment. Donc Et donc un disque avec le mécanisme snapback sur les sanctions qui ont été engagées, l'Iran, dont le régime a réussi à se stabiliser, va repartir dans les opérations militaires d'ici peu. Si ce n'est pas l'Iran qui repart directement, c'est probablement les Israéliens qui repartiront là, surtout si leur affaire à Gaza se termine. Donc il y aura d'autres théâtres qui seront activés. Vous aurez une Russie qui, dans un tel cadre, la Russie et la Chine commencent à véritablement se coordonner hein, au plan militaire. Ça paraît assez clair. Les Russes apportent de l'aide dans la préparation des opérations aéroportées, etc., en direction de Taïwan. La Chine a dit qu'elle soutiendrait la Russie, je l'ai rappelé la semaine dernière. Donc vraisemblablement que sur un certain nombre de fournitures, de composants, d'aide à l'industrie de guerre, à ce stade-là, il faut s'imaginer que la Russie aurait aussi la Chine derrière elle, et véritablement, hein. Donc en plus, au niveau capacité matérielle et économique, il est vraisemblable que la Russie tiendrait le coup. Donc ça serait très compliqué de la faire tomber. Ajoutez à ça qu'il y aurait aussi l'assistance de la Corée du Nord. Hein. Si la Corée du Nord a envoyé 20 000 hommes en Russie, ils peuvent en envoyer 100 000, hein, vraisemblablement. Donc il y aura tout ça qui nourrira à ce stade-là, dans ce scénario, et jusqu'à ce qu'on arrive à ce moment-là, et après aussi, qui nourriront la machine de guerre russe. Donc il faut en tenir compte dans ce cas-là. Donc premier scénario à ce stade-là, soit on en reste là. Je dirais qu'il y aurait 30% de chances qu'on en reste à ce stade-là. Parce que ça fait quand même l'armée russe de 800 000 ou 1 million d'hommes sur le pied de guerre, aguerris désormais, etc., face à la Pologne et à l'OTAN, à mon avis, ça serait pas si facile à arrêter que ça. Mais mettons, c'est possible quand même. Je dirais donc 30% de chances que ce scénario-là se fige. Et qu'ensuite il y a un reflux de la Russie, et que la Russie finisse par perdre, comme je l'ai dit. Par contre, je mettrai 70% de chance sur ça, à mon avis, qui sera arrivé. C'est-à-dire que je pense que à ce niveau de la guerre, à ce niveau de danger, et vu ce qui se passe partout en Europe, et notamment en Allemagne, avec la montée de l'AfD, etc., qui est très pro-russe, la tentation qu'il y a encore du côté du pouvoir allemand d'interdire l'AfD et probablement les frappes qui auront été conduites dans ces régions-là par la Russie. Alors je ne sais pas si la Russie frappera véritablement directement l'Allemagne, peut-être pour pas énerver les Allemands, ou pour pas, ça serait une erreur à mon avis, ça ferait naître le sentiment nationaliste, en les laissant de côté. La Russie pourrait malgré tout arriver à organiser à la fois une espèce de coup en Allemagne, un coup d'État, un truc comme ça. Je rappelle que l'ex-Allemagne de l'Est, parce que c'est ça que j'ai mis en orange, est très très. C'est là que l'AfD fait ses plus gros scores. C'est de ce côté-là qu'il y a également un vieux tropisme pro-russe, le plus important, bon, plus qu'en Allemagne de l'Ouest encore. Et avec et ça correspondra à ce que j'ai déjà évoqué comme étant la possibilité de vichysation de l'Allemagne. C'est-à-dire, grosso modo, pas forcément une conquête du pays, mais un régime qui, au moins sur une partie du territoire allemand, décide de collaborer avec la Russie. Ou en tout cas, de se déclarer neutre et de dire on arrête maintenant, on en a marre, on ne veut pas être dans une guerre contre la Russie, etc. Donc ça serait très dangereux parce que ça serait dans le dos de la Pologne en plus. Alors bien sûr, encore une fois, là vous avez la Pologne qui dont le territoire est intact, mais j'ai dit jaune, c'est frappe militaire significative. Alors c'est des frappes, ça peut être aussi, vous pouvez avoir une partie du territoire polonais qui serait envahie ou occupée à ce moment-là, etc. Donc plus forcément vous aurez une partie du territoire polonais qui serait envahie ou occupée par les Russes, plus il y aurait de chances que l'Allemagne se rende d'une certaine manière. Et bascule dans le camp de la neutralité, on va dire. Et encore une fois, tout ceci, hein, je vous renvoie à l'émission que j'avais faite et qui est dans les essentiels. Je vous rappelle que vous pouvez aller voir la liste des essentiels en vous abonnant à cette chaîne. Et je vous invite, d'ailleurs, petite interlude, à ne pas hésiter à mettre un pouce sous cette vidéo, à vous abonner si vous découvrez la chaîne. Et également, puisque vous êtes quand même plus de 800 ce soir, À savoir que vous avez la petite liste des essentiels en accès libre que vous pouvez consulter à volonté, mais qu'avec le premier palier de souscription, vous avez accès à la totalité du catalogue et les vidéos, la liste, la playlist complète des essentiels, il y en a quand même plus d'une cinquantaine. Donc ça fait beaucoup de contenu à voir que vous pouvez binge-watcher avec, en étant juste membre pendant même juste un mois. Et par ailleurs, bien sûr, n'hésitez pas à nous soutenir de manière générale, c'est extrêmement important pour la pérennité de la chaîne. Donc, je disais dans cette émission que j'avais fait à l'époque, c'était pronostic, je crois, de guerre, j'expliquais qu'il fallait imaginer que dans le cadre de ce qu'allait être la révolution européenne, parce que je rappelle qu'il y a une révolution européenne en plus qui doit déclencher, et vraisemblablement qu'elle se déclenchera comme s'est déclenchée la révolution russe de 1917, c'est-à-dire sous les coups de boutoir de la défaite contre l'Allemagne. Et donc vous auriez une espèce vous auriez quelque chose qui serait comme l'équivalent de la chute de l'URSS progressive, c'est-à-dire les pays qui les uns après les autres basculaient pas dans le camp occidental mais basculaient dans la neutralité, c'est-à-dire qui quittaient le pacte de Varsovie et qui disaient maintenant on est indépendant, on n'obéit plus à personne. Bon, mais qui de fait étaient des pertes de contrôle de territoire par l'URSS. Hein. Donc c'était véritablement un repli. Ça ressemblait à de la guerre de mouvement. Hein. C'est ça que j'avais dit. Donc, ça ressemblait aux derniers mois de la Grande Guerre, où tout d'un coup l'armée française s'était remise à avancer en 1918. Mais là, pareil, après des années de blocage, entre 89 et 91, tout d'un coup, l'Occident avance et fait tomber les uns après les autres les dominos, pas en occupant ces pays, mais simplement en les arrachant à la domination soviétique. Eh bien, on aurait quelque chose d'équivalent à ce moment-là, au niveau ces pays qui se déclarent neutres, ça serait un peu ça aussi, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire au profit de la Russie et contre l'Union européenne et contre l'Occident en général, contre l'OTAN. Et ça pourrait être le cas notamment, alors ça pourrait être le cas de toute l'Allemagne, mais ça pourrait être le cas aussi d'un morceau allemand. Mettons le scénario, vous imaginez, il y a, je sais pas, un gouvernement allemand qui tombe, comme est tombé celui de Scholz au début à la fin de l'année dernière. Il faut aller faire de nouvelles élections ou même sans qu'il y ait de nouvelles élections, le parti au pouvoir décide d'interdire l'AFD, alors que l'AFD est en tête des sondages très nettement. À ce moment-là, vous pourriez avoir un déclenchement de révolte, voire de révolution interne, d'insurrection à l'intérieur de l'Allemagne au profit de l'AFD, et il n'est pas impossible qu'au bout de qu'à l'occasion de ce soulèvement, vous ayez une partie du territoire allemand, celui où l'AFD est très très majoritaire, qui est donc celui de l'ex-RDA, qui bascule et qui, je ne sais rien, se déclare sécessionniste avec un gouvernement à Berlin et se déclare neutre vis-à-vis de la Russie. Il pourrait se passer quelque chose comme ça. Hein. Il pourrait se passer des choses en France aussi. Hein. Je rappelle, je ne vais pas parler de Le Cornu ce soir, mais enfin les annonces qu'il fait, on sent que Le Cornu amorce la mutation parlementariste. Et va dans le sens de la mutation parlementariste, qui va marginaliser Emmanuel Macron. Donc ça éloigne le spectre de la démission d'Emmanuel Macron, parce que s'il n'y a pas de confrontation avec son Premier ministre, il y a peu de chances qu'il soit poussé à la démission. Par contre, il pourrait finir par être poussé à la démission dans ce cadre de scénario de guerre, où il y aurait des révoltes populaires, en tout cas d'une partie, notamment de l'extrême gauche, LFI, qui dirait non, il faut la paix, il faut arrêter de se battre avec les Russes, etc. Par exemple, qui arriverait à s'emparer de Paris, hein, des rues de Paris, et à mettre Emmanuel Macron dehors. Et à ce moment-là, il serait chassé un peu comme l'avait été Louis XVI, qui avait été accusé d'avoir déclaré la guerre aux Autrichiens, en espérant que les Autrichiens gagneraient pour le rétablir dans son pouvoir. C'est ce que lui ont reproché les conventionnels de la Révolution. Macron pourrait avoir un sort comme ça. Donc vous avez tout un tas de pays comme ça qui pourraient être déstabilisés, mais en particulier la France et l'Allemagne, dans ces circonstances-là. Donc dans ce scénario-là, vous auriez en plus un bout d'Allemagne qui devient neutre, et dans le dos de la Pologne en plus, ce qui sera encore plus dangereux pour la Pologne. Mais vous avez encore, dans ce scénario-là, un moyen de ravitailler la Pologne. Vous en avez deux, vous avez par la Baltique. Mais là, on peut penser que ça serait déjà très, très gêné par les Russes depuis leur prise des Pays-Baltes. Et notamment, vu qu'on est dans le scénario où l'Ukraine serait tombée, il faut penser que les Russes, d'une certaine manière, auraient réussi à interdire la Baltique, pas en prendre le contrôle, mais à empêcher que les fournitures pour l'Ukraine arrive par là, et donc s'ils ne peuvent pas arriver pour l'Ukraine, ils ne pourraient pas arriver pour la Pologne non plus, donc difficulté. Donc il resterait un corridor qui passerait essentiellement par la République tchèque. Mais à ce moment-là, donc là aussi, on peut, On peut dire qu'il y a plusieurs scénarios, mais je pense que à partir du moment où on arrive là, c'est-à-dire au moment où véritablement on a un scénario où l'Allemagne bascule, je pense que de manière assez automatique, vous auriez aussi la République tchèque qui basculerait. Alors soit qui basculerait dans le camp des neutres, soit qui deviendrait elle aussi l'objet de frappes de la part des Russes, de frappes intenses, voilà. Qui de toute façon la bloquerait et la rendrait, voilà, on ferait un terrain de guerre. Et à ce moment-là, on arrive sur ce que je considère à ce stade, et avec tout ce que je vous ai dit, comme la possibilité d'expansion maximale de la Russie en Europe. D'accord? Dans le cadre de la guerre qui vient. Donc on n'est plus dans, je vais vous les remettre, on n'est plus dans l'ancienne projection qui était, je vais avoir du mal à vous la, attendez, je vais vous la refaire passer devant. On n'est plus dans l'ancienne projection qui était comme ça, d'accord? C'est-à-dire qui allait jusqu'à l'Italie, le Benelux, etc. Ça, je ne pense pas que ça arrivera, n'est-ce pas? En revanche, on est sur quelque chose qui est équivalent à ce qu'étaient les frontières de l'Empire soviétique. Si vous vous souvenez bien, attendez, je vais essayer de vous le mettre comme ça, voilà. Si vous regardez les frontières de l'Empire soviétique, c'est-à-dire en comptant tout le pacte de Varsovie, ben vous auriez un espace grosso modo similaire, voilà. En rajoutant la Yougoslavie était à moitié, on va dire, dans le pacte, elle n'était pas dans le pacte de Varsovie, mais enfin, à moitié dans le bloc communiste, donc que la Serbie soit. Mais vous voyez, à ce moment-là, vous aurez quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'on retrouverait ce qui peut être l'expansion maximale d'une domination russe en Europe, compte tenu de là où est le centre gravité de l'expansion russe. Donc, et vous noterez que les scénarios que je vous ai montrés sont bien quelque part entre la ligne bleue et la ligne verte. C'est-à-dire, la ligne bleue, c'est un des scénarios qu'on a vu avant, hein, où l'Ukraine ne tombe pas, ou alors où il tombe partiellement, et où peut-être les Russes essaieraient de contourner par la Pologne, et d'attaquer la Finlande, par exemple, hein, s'ils décidaient pas de mettre le paquet en Ukraine. Et dans l'autre cas, ben, c'est le scénario que je vais vous montrer, hein, où on aurait quelque chose comme l'équivalent de ce qui a été l'expansion soviétique. Donc ce qui serait un impérialiste revanchard de plein exercice, on dirait, c'est-à-dire même équivalent Staline, qui irait aussi loin, en étant parti de moins loin quand même, hein, parce que encore que la frontière russe, au moment en 1917, c'était à peu près ça, hein, Brest-Litovsk, ça avait privé la Russie de l'équivalent actuel des Pays-Baltes, de la Biélorussie, pas toute la Biélorussie, mais une partie, et l'Ukraine qui s'était déclarée, qui ensuite s'est déclarée indépendante, mais qui à la base était occupée par les Allemands. Donc voilà ce que je pense être l'expansion maximale russe. Et expansion maximale, ça veut dire qu'ensuite, il y aurait un reflux, naturellement. Bon. Et ce reflux, il se ferait notamment parce que je pense que, à ce stade-là, si vous arrivez là, vous aurez une guerre aussi avec la Turquie, naturellement. Vous aurez la guerre ouverte avec la Turquie, qui interviendra côté otanien, et qui probablement porterait la guerre, alors, avec l'aide de l'Azerbaïdjan ou pas, vous savez qu'il y a déjà des bisbilles entre la Russie et l'Azerbaïdjan. D'autant plus que l'Azerbaïdjan serait peut-être coincé lui-même entre l'Iran et la Russie, à voir comment ça se goupille. En fait, dans cette région, c'est vraiment le bazar. Donc tout le monde est susceptible de se taper dessus entre l'Iran, l'Azerbaïdjan, l'Arménie et les Turcs. Mais donc je pense que si vous avez ça, vous aurez ça. Pour moi, il y aura l'entrée en guerre de la Turquie. Hein, on en viendrait, je pense, nécessairement à ce stade-là. Et si on arrive à ce stade-là, ça change un petit peu quelque chose sur le scénario final, parce qu'à ce moment-là, je pense que le scénario final, ça sera ça. C'est-à-dire que c'est le même scénario que l'autre, sauf que là, vous auriez en plus, à la fin, vous vous retrouveriez avec des Turcs qui prendraient un gros morceau de Russie autour de la mer Caspienne. Et alors pourquoi? Ben parce que grosso modo, ça permettrait d'aller faire le lien avec le territoire du Kazakhstan. Pourquoi? Parce que le Kazakhstan, c'est territoire turcophone. Et donc là, vous savez que c'est la projection de l'Empire panturc. Et donc naturellement, plus la guerre aura eu d'ampleur militairement et géographiquement, plus la Turquie, à la fin de la guerre, aura eu à déployer ses troupes. Et donc plus l'Empire panturc sera déjà avancé, si vous voulez. parce qu'il y aura des troupes turques dans un certain nombre de pays. Si la Turquie n'était pas amenée à faire la guerre comme ça, et si vous allez dans les premiers scénarios où la guerre reste concentrée en Ukraine ou dans les Pays-Baltes, etc., logiquement, à ce moment-là, vous auriez un containment de la Russie qui serait plus réussi, probablement moins de mouvements de troupes côté turc, et donc à la fin, les Turcs n'occupent pas un territoire, et si les Turcs n'occupent pas du territoire à la fin, il y a peu de chances qu'ils le cherchent à le garder. L'idée que les Turcs cherchent à garder le territoire qu'ils auraient pris, c'est un petit peu sur le modèle de Staline, si vous voulez, hein, qui a pris du territoire en se battant contre Hitler, à la fin, il a refusé de le rendre. Bon, parce qu'il était dans le camp des vainqueurs. On peut imaginer ça. Mais si jamais la Russie était restée hors de la guerre, ben, elle n'aurait pas occupé tout ce territoire à la fin de la guerre, hein, bien naturellement. Et donc, à la fin, je disais, ça vous donnerait ça. Ce qui n'est quand même pas très éloigné de l'autre scénario, mais enfin, quelque chose d'encore plus important. Et donc, on revient à ma synthèse que je vous ai présentée au début, qui est celle-ci. Et à travers laquelle vous voyez le calcul en fait que j'ai fait. Et c'est des petits calculs de probabilité en fait, tout simplement, en tenant compte de ce que je vous ai dit au début. Parce que la première solution, donc, pas d'invasion des Pays-Baltes, Poutine renonce. Et la Russie finit par s'effondrer parce que les raffineries pétaient, etc. Et les Chinois ne les aident pas trop, éventuellement. 5% de chance là-dessus, bon, vous avez 5% de chance qu'on se retrouve avec le scénario de défaite russe comme ça. Je mets 95% de chance que les Russes essaient de prendre les Pays-Baltes, qu'ils attaquent, et à ce moment-là, deux hypothèses. Soit, et là, 20% de chance, ils foirent, donc on retombe sur le scénario d'en haut, et vous arrivez au scénario final, et à ce moment-là, c'est 19% de chance. En fait, vous êtes à 24% total, puisque c'est le même scénario final qu'au-dessus, on est d'accord. Mais 80% de chance, les Russes réussissent à ce moment-là leur invasion des Pays-Baltes seuls, et ça transforme une bonne partie du territoire européen en zone de guerre, soit directement avec pénétration de troupes, par exemple en Finlande et en Pologne, soit pour ce qui est de la Suède, du Danemark, etc., vraisemblablement plutôt des frappes de missiles, des vagues de drones importantes, etc. Donc ça veut dire qu'à partir de maintenant, on est à 76% de chance. On est à 80% entre les deux étapes, mais à 76% depuis le début. Et là, 50% de chance que l'Ukraine tienne. Si l'Ukraine tient, ben, à la fin, on retombe sur la même issue que dans les autres cas, donc à 38%. Donc, si vous faites le total avec les autres, ça fait 48, 57, ça fait, on est à 62%. Hein, donc, c'est quand même deux tiers des chances que ça aille pas plus loin que là. Et à 50%, donc 38% en partant du départ, les chances que l'Ukraine s'effondre et là, il y ait un déferlement de la Russie très important en direction de la Roumanie, la Moldavie, etc. À partir de là, ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai 30% de chance que ça s'arrête là, qu'il ne puisse pas aller plus loin, et à ce moment-là, vous retombez sur la fin, vous arrivez à 11,4%, et donc, en fait, le premier type de scénario de fin de guerre, vous êtes à 75%, plus de 75%, non, un peu moins de 75%, de chance que ça n'aille pas plus loin que ça. Et le scénario maximaliste, on va dire, il tient pour 26%, et là, c'est le scénario maximaliste que je vous ai montré, où les Russes, grâce à toutes les troupes qu'ils ont de disponibles après, et surtout en ayant gardé assez, après avoir battu l'Ukraine, etc., et soutenu par la Chine, et avec l'appareil militaro-industriel ukrainien saisi, etc., arrive à renforcer encore la guerre contre l'OTAN, et donc à faire renoncer et provoquer des troubles en Allemagne, peut-être aussi d'autres pays européens, mais en tout cas à provoquer cette neutralité. Et donc là, c'est véritablement la guerre maximale, on va dire, qui implique une véritable guerre sur une bonne partie du territoire, l'implication de la Turquie, mais à la fin, de toute façon, un effondrement de la Russie. Donc là, vous avez un schéma. J'aime bien cette synthèse, finalement, parce qu'elle représente assez la façon dont je vois l'historionomie depuis le début, c'est-à-dire qu'il y a une issue que j'appelle habituellement, c'est vraiment de l'histoire nécessaire, c'est la défaite de la Russie. Voilà. À la fin, vous avez la Russie qui perd. Bon. La question, c'est qu'est-ce qui se passe entre le moment où la Russie commence et la Russie, jusqu'où arrive à aller la Russie avant de perdre. C'est ça l'idée. Et ça vous donne une idée aussi de l'effet que la contingence sur ce qui se passe a à la fin. Parce que, bon, alors, je ne l'ai pas détaillé à chaque étape, il y aurait probablement des nuances, mais à la fin, grosso modo, si vous avez eu le truc maximal, ben, vous aurez probablement une perte de territoire russe qui sera plus importante parce qu'il y aura une partie du territoire qui sera occupée par des troupes comme les Turcs, etc. Alors que dans les autres cas, moins il s'est passé de choses, et ben, moins ces changements sont importants. Mais dans les deux cas, on a une défaite de la Russie, donc la question c'est ce qu'elle arrive à garder comme territoire à la fin ou pas, et ça c'est contingent, vous voyez? Mais voilà la chaîne de probabilité que moi je vois à ce stade. Alors ce que je trouve intéressant dans ce schéma, c'est que vous pouvez vous le refaire à votre sauce, hein? Vous pouvez vous dire, bah non, moi je pense qu'il y a 50% de chances que Poutine, il cuque, voilà. Il n'essaie pas d'attaquer les pays baltes, et donc à ce moment-là, bah, vous refaites votre grille avec votre calcul à vous, et vous aurez votre idée. Moi, je vois les choses comme ça. Encore une fois, la plus grosse inconnue pour moi, où je suis sûr du 50-50, c'est est-ce que l'Ukraine serait capable de tenir. Ça, véritablement, ça conditionne beaucoup de choses derrière. Et notamment la longueur et la difficulté du conflit pour une bonne partie du territoire européen. En même temps, ça vous montre que je ne pense pas que la Russie véritablement arrivera jusqu'au territoire, ben, par exemple jusqu'au territoire français. Ce qui ne signifie pas, parce que là, j'ai pas mis en jaune parce que ça serait pas, je compterais pas ça comme terrain militaire significatif. Mais si vous avez une partie de l'Allemagne de l'Ouest ou si vous avez une partie de la France dont une partie du territoire bascule en situation insurrectionnelle, par exemple, où vous avez des minorités qui sont agitées, ou dans le cours des événements, parce que je vous rappelle que comme c'est la guerre mondiale, ben, il y a d'autres conflits qui peuvent se déclencher, vous pouvez avoir un conflit Algérie-Maroc, vous pouvez avoir ce conflit qui est importé partiellement sur le territoire français, vous pouvez avoir l'Algérie qui, au service de la Russie, agite des Algériens chez nous, et où donc ça provoque des tensions internes et des épisodes de guerre civile, par exemple, surtout si on est en révolution en France. Vous savez déjà que ben, il y a les Serbes là qui ont déposé des têtes de cochon devant les mosquées qui ont été arrêtées. Il y a des coups comme ça qui peuvent fonctionner mieux et provoquer, surtout en situation de tension et de déséquilibre, des guerres comme ça. Donc il faut ajouter à tout ça, dans le scénario maximaliste, des possibilités d'épisodes de guerre civile dans un certain nombre de pays européens, hein, y compris le Royaume-Uni, y compris ces choses-là. D'accord? Donc ça, je ne l'ai pas fait figurer sur la carte, parce que ce n'est pas véritablement de l'avancée de l'influence russe en tant que telle. Mais ça peut jouer aussi. Hein, ça peut jouer aussi. Et une fois que vous avez tout ça, voilà. Enfin, en tout cas, ce scénario maximaliste, on va dire, je pense qu'à ce stade, il compte pour, voilà, 26%, une chance sur 4. Mais vous avez, avant ça, tout un éventail de chances qui sont quand même importantes. Vous avez presque 40% de chances que vous ayez l'Ukraine qui tombe et la Roumanie qui soit envahie, par exemple, dans ce calcul-là. Bon, je pense que c'est quand même. Je pense que c'est pas excessif comme probabilité, très honnêtement, hein, à ce stade-là. On verra. Mais le truc aussi, je vous disais, l'histoire, c'est des choses qui permettent d'anticiper des choses qu'on ne peut pas forcément anticiper, mais sans forcément comprendre pourquoi elle pourrait avoir lieu. Juste, ça permet juste de dire, attention, il pourrait se passer ça. Ben, là, typiquement, ça ressort du fait que les Russes pourraient nous surprendre militairement. C'est-à-dire que, d'accord, ils ont peut-être fait une contre-performance en Ukraine, mais ils vont peut-être faire une performance en utilisant leurs drones, etc. Ils vont peut-être nous surprendre comme ça. On ne peut pas l'exclure, parce qu'en général, c'est ce que fait l'impérialiste revancheur. Peut-être que ça n'arrivera pas, on sera surpris. Mais comme disent un certain nombre de spécialistes de l'armée russe, en particulier je pense à Michael Kaufmann, l'armée russe, on fait toujours l'erreur de soit trop la sous-estimer, soit trop la surestimer. Et qu'elle n'est jamais aussi mauvaise ni aussi bonne qu'on la soupçonne. Bon, depuis l'invasion de l'Ukraine, on a tendance à la penser assez mauvaise. Ça ne veut pas dire qu'elle est aussi mauvaise et que tout ce qu'elle fera sera aussi mauvais que ce qu'on a pu voir en Ukraine. Surtout qu'en Ukraine, encore une fois, elle se heurte à un autre impérialisme revanchard, donc des gens extrêmement motivés, à une masse de troupes très importante, une masse qu'on n'a pas en Europe pour l'instant. Elle se heurte au fait que ben, elle a attaqué avec trop peu de masse à la base, donc elle n'a pas réussi à gagner un momentum. Et à partir de là, ça s'est enlisé. Une fois que ça a commencé à s'enliser, que tout le monde s'est mis sur des positions fortifiées, que tout le monde est déployé sur une ligne, ben, on sait que c'est très compliqué de faire autre chose. Si vous reprenez le début de la Première Guerre mondiale, il ne faut pas oublier que c'est tout l'épisode de la course à la mer, vous savez. Après la défaite de la Marne, les Français et les Allemands ont cherché mutuellement à s'encercler et à se contourner, à se flanquer, si vous voulez. Et c'est ça qu'on appelle la course à la mer, c'est qu'à force d'essayer, ils ont grimpé, juste, attends, je vais enlever l'image, sinon vous ne voyez pas les gestes que je fais. Ils ont grimpé comme ça jusqu'au moment où ils sont arrivés jusqu'à la mer. Et à partir du moment où vous avez une ligne, où les mecs sont face à face, ça devient très compliqué. C'est beaucoup plus facile de percer quand vous avez des groupes et que dans les concentrations de troupes, vous avez des espaces dans lesquels vous pouvez vous engouffrer. Une fois que vous avez une ligne face à une ligne, c'est très difficile de progresser. Et donc, il n'est pas du tout impossible que tous ces critères-là ne seront pas là si les Russes attaquent les Pays-Baltes ou ailleurs. Si on n'est pas préparé, s'ils arrivent à surprendre relativement, ils ne vont pas se retrouver face à une ligne de mecs dans les Pays-Baltes. On est en train de mettre en place des fortifications, mais c'est compliqué, ça prend du temps. Donc s'ils arrivent à mettre en place un endroit où ils auront un momentum, justement, là c'est une autre paire de manches, militairement. Et encore une fois, les Japonais, par exemple, ils ont été bloqués en Chine, mais ils ont réussi à avoir ce momentum quand ils se sont lancés de l'autre côté, en Asie du Sud-Est. Donc c'est possible. Ça fait partie du logiciel... de l'impérialiste revanchard habituel et donc je pense que c'est comme ça que les choses peuvent se passer et qu'elles risquent de se passer. En tout cas, je trouve ça intéressant de faire cette échelle de probabilité. C'est peut-être plus intéressant que ce que je faisais avant. Je voyais pas trop comment le faire. C'est vraiment ce cas-là qui m'a donné envie de le faire. On devrait multiplier ça parce qu'en fait il faudrait tenir compte des autres terrains, des autres théâtres d'opération, de Taïwan, de la frontière entre l'Inde et la Chine. Vous savez qu'il se passe encore des choses au Ladakh ces jours-ci. Il y a eu des manifestations, ils ont arrêté un leader important, c'est assez mal vu en Inde, enfin, il y a des troubles à nouveau là-dessus. Autour de l'Iran, il risque de se passer d'autres choses, je le disais tout à l'heure, et donc il faudrait factoriser tout ça. Voilà, là, je me suis concentré sur ce qu'était l'Europe, on pourrait affiner ça avec tout un tas d'autres hypothèses. Peut-être qu'il faudrait que je fasse d'autres émissions pour parler des autres théâtres d'opération et en parlant de celui-là aussi toujours. Peut-être que je vais le faire dans les semaines ou les mois qui viennent. Mais voilà en tout cas ce que je pouvais dire à ce stade-là. Voilà. Il y a des choses qui pointent en direction de ce qui devrait être une surprise qui pourrait être provoquée par les Russes. Et donc, je pense que la finalité, c'est quelque chose comme ça. Voilà. Et donc, si vous avez l'Atlas des guerres à venir chez vous, actualisez-le avec cette émission. Voilà. Et tout le récit que j'avais essayé d'avancer, hein, encore une fois, c'est normal de revenir dessus, de ne pas rester. Mon idée, ce n'est pas de continuer à rester ce que j'ai dit en 2017 et de dire « Ah, regardez, voilà, ça va se passer exactement comme j'avais dit en 2017 ». Non. C'est d'essayer, maintenant qu'on est en 2025, qu'on a vu arriver beaucoup de choses, qu'on a beaucoup plus d'informations, de réaffiner les prévisions. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec vous ce soir et comme ceci. Voilà ce que je voulais dire sur le sujet. Comme c'est le live hebdomadaire de la semaine, nous allons juste après rejoindre nos abonnés dans le live privé des souscripteurs. Mais je vais regarder si nous avons des dons et des questions de dons, puisque vous le savez, je réponds aux questions de dons dans l'émission, je réponds aux questions des souscripteurs qui ne sont pas avec dons dans le live privé des abonnés. Alors, nous avons Rudolf Millet, que je remercie, qui pose la question suivante. Que répondre à ceux qui assimilent la recherche historionomique à du marxisme ? PS, quid du Discord pour les souscripteurs ? Alors, je remercie Iruma qui m'a fait des captures d'écran de toutes vos questions. Alors, Iruma me fait savoir, parce que moi, le Discord, je ne suis pas du tout, je ne maîtrise pas et j'aime pas Discord, d'ailleurs. Mais je sais qu'un certain nombre de gens aiment intervenir là-dessus, surtout qu'en plus, je crois que vous organisez des parties de jeux vidéo dessus. Le Discord, il existe et il est dans le canal Telegram, canal règles. Voilà, c'est là qu'apparemment, il y a un des canaux Telegram, c'est un canal fermé d'ailleurs, où Irum a mis les règles. Et donc c'est là qu'il faut aller, et il y a le lien pour le Discord. Alors que répondre à ceux qui assimilent la recherche historionomique à du marxisme ? Alors je ne sais pas s'ils sont très nombreux, disons que oui, en général c'est surtout l'idée Les gens me citent Karl Popper, me disent c'est de l'historicisme, etc. Que répondre? Non, parce que il n'y a pas une fin, si vous voulez. Je ne parle pas de sens de l'histoire. Moi, je ne dis pas que les choses doivent aller véritablement vers quelque chose qui serait une espèce de fin pour l'humanité. Au contraire, ce que je mets en évidence, c'est les mécanismes fondamentaux qui font qu'on observe à la fois une forme de cyclicité et une forme de linéarité dans l'histoire, et de pourquoi les choses se passent comme ça. Mais c'est pas un historicisme au sens où le mentionnait Karl Popper. Ça vise à prédire l'histoire, en partie, telle qu'elle se fait, ça clairement, ce que je viens de faire ce soir, mais ça n'est pas normatif. Je dis pas ça doit aller vers ça, donc il faut tout faire en sorte pour que ça aille vers ça. Ce qui est quand même l'idée qu'il y a derrière le marxisme, hein, économiquement. On dit bienvenue dans Compagnon et Citerionum à Thibaut Carlini. Merci de nous rejoindre et de nous soutenir. Geoff, merci pour son nom qui disait il y a un film de boules médiévales en fond, Philippe. Alors non, c'était pas ça. Ça, encore une fois, c'était un anglais. Mais justement, je suis désolé de ce début, du coup, qui m'a un peu gâché. J'étais super content de faire cette émission. J'avais tout bien préparé. Je me disais, ça va être super, on va enchaîner et tout. Et voilà, petite leçon d'humilité. On maîtrise pas forcément les choses. Je suis extrêmement curieux quand même de savoir comment et par quel mécanisme il est possible d'entendre ce qui était sur un onglet Chrome ouvert à côté et qui n'a aucun lien avec OBS. Ça, je comprends pas parce que j'entendais pas de sortie son au niveau du PC en plus, donc vous n'avez pas pu entendre par le micro. C'est très très curieux. Bienvenue à Punk à Pouf, merci de sa souscription. Dominique, merci pour son don, qui nous dit, et les satellites, il y a la Terre, la mer, le ciel, mais aussi l'espace. Alors je ne sais pas à quel moment il disait ça, mais si c'est pour parler des sphères d'affrontement, c'est tout à fait possible, hein. Il y a actuellement des informations comme quoi certains satellites russes auraient suivi des satellites notamment britanniques de surveillance. Donc effectivement, il y aura des éléments de guerre spatiale. Matt Broshiker, merci pour son don. Avec ce conflit, inversion des flux migratoires extra-européens en Europe de l'Ouest, les Turcs partent d'Allemagne et arrivent les Roumains. Il pourrait se passer effectivement quelque chose comme ça. Je ne suis pas sûr que les Turcs partiraient d'Allemagne, par contre. Parce qu'Erdogan est très content qu'ils y soient. Mais si l'AfD arrive au pouvoir, profite de la guerre et s'empare de l'Europe de l'Est, peut-être qu'elle les mettra dehors. Mais je ne suis pas sûr que ce soit là qui se concentre le plus, la population immigrée, de toute façon, en Allemagne de l'Est. À mon avis, ils sont surtout en Allemagne de l'Ouest. Et est-ce que les Allemands les feront partir? Je ne sais pas. Il y aura sans doute une inversion des flux migratoires pour un certain nombre de pays, en plus dans le cadre de la Révolution européenne. Mais je pense qu'effectivement, il y a des Roumains qui risquent et pas mal de gens venant d'Europe orientale qui risquent d'arriver en Europe occidentale. Denis G4, le patron, qui nous fait un don, je le remercie, et qui nous dit, si la Russie perd l'Asie, deviendra-t-elle une super Moldavie, non plus une partie de l'État-nation européen, mais une périphérie impériale comme l'Autriche dans l'Empire franc? Ça pourrait être quelque chose comme ça. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Il y a aussi une chose que mes récents travaux sur l'homogénéisation m'indiquent et à laquelle je n'avais pas pensé, c'est que si nous avons un État-nation parlementaire européen qui se mettait en place et qu'il absorbait la Russie, l'absorption de la Russie constituerait une réhétérogénéisation qui risquerait de le faire à nouveau évoluer de toute façon vers un nouvel ancien régime, même s'il arrivait à la fin de sa mutation parlementaire et qu'il n'était pas... Bien sûr, il y a aussi l'option, l'Europe qui conquiert, qui arrive à reconquérir une partie de la Russie en mode impérialiste revanchard. Auquel cas, ça amène aussi un nouvel ancien régime. Donc, on est peut-être condamné à avoir un nouvel ancien régime si l'Europe absorbe la Russie, d'une manière ou d'une autre. Encore faudrait-il que les Américains laissent l'Europe et la Russie fusionner, hein, ce qui sera compliqué. Denis, encore une fois, qui est là depuis 43 mois, faut le féliciter, c'est un ancien, qui dit Philippe qui gère tout, c'est irrésistible, avec son petit smiley Biden, avec les lunettes de soleil, c'est exceptionnel. Je ne savais même pas qu'il y avait des petits smiley Biden. Avant de vous laisser, je vais aller faire un petit tour pour vérifier de dire bien bonjour à tous les gens qui se sont abonnés ou, qui ont décidé de soutenir la chaîne. Donc Punk à Pouf, je lui ai déjà dit bonjour. Je dis bonjour, donc Thibaut Carlini, je l'ai vu. Nous avons eu aussi David Babseres, qui nous a rejoint cette semaine, ainsi que Rod Juan. Un passage au niveau supérieur de la part de... Alors, ça saute comme d'habitude. De la part de... Ah, je vais pas réussir. Le temps que je retrouve le truc. De la part de... Anto 1390. Et nous avons aussi UFO Ketron qui nous a rejoint, ainsi que Romain N. Et voilà, c'était les dernières arrivées. Et sur Tipeee, nous remercions notre ami Yukio Lirt qui nous fait son nom habituel très généreux. On le remercie. On remercie aussi Jean-Michel et on remercie Rémi. Alors, je vais voir s'ils ont posé des questions. Non, bonjour, vous y trouvez cette modeste contribution pour votre travail et la qualité de vos analyses. Bonne soirée cordialement, merci beaucoup. Rémi, merci pour ce live. Quid en cas de décès précoce de Vladimir Poutine? Peut-on espérer un refroidissement du conflit sur le modèle de la guerre froide par exemple? J'ai beaucoup aimé la petite musique de début de live. Je suis désolé, j'ai pas fait exprès, je saurais pas le refaire. Décès précoce de Vladimir Poutine? Bonne question. Je pense que ça dépend à quel stade on est. Je pense que tant qu'on est vraiment dans une dynamique d'escalade, même si Poutine disparaissait, ça n'empêcherait pas l'escalade de se poursuivre, parce qu'encore une fois, ce n'est pas une question personnelle. En revanche, si on est déjà qu'on a passé le pic de l'escalade et qu'on est au moment où l'impérialiste revancheur commence à fatiguer, je pense que ça peut précipiter sa chute si celui qui l'incarne meurt tôt. Mais c'est un petit peu comme le départ du général Tojo au Japon, qui a cessé d'être le premier ministre du Japon en juillet 44, donc un an avant la fin de la guerre. Donc ça n'a pas empêché que la guerre a quand même continué pendant un an. Donc a priori, voilà, je suis pas sûr que ça aurait véritablement un effet. Et voilà, je vérifiais, mais Yukio, lui, il a fait son nom avec sans rien dire, comme d'habitude, avec un petit... Voilà, très bien, donc je le remercie bien vivement. Je vérifie auprès de notre ami Marvin si on a eu quelque chose d'autre. Non, j'essaie de voir en direct si je vois des choses dans le chat. Non, je ne vois rien. Eh bien, écoutez, merci d'avoir été là. Vous avez encore été nombreux ce soir. Apparemment, on a eu un pic à 1000 viewers. C'était bien. J'espère qu'en dépit du petit faux démarrage qui a permis au retardataire d'arriver, que ça vous a intéressé. J'aime bien faire... Ça faisait un moment que je n'avais pas fait d'émission avec des images comme ça. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous les aiment bien. Donc je vais aller retrouver de ce pas nos chers souscripteurs dans le live privé, et à tous les autres je dis merci d'avoir été là, à bientôt, et ne vous laissez pas faire.